Juste un mot peut-être sur le clin d'œil qui est dans le début du titre, hein, état sanitaire, état policier. Hein. C'est un clin d'œil à un passé militant des années 70. Il y avait un slogan, hein, qui posait une équivalence, société nucléaire, société égale société policière. Et derrière, bien sûr, il y avait l'idée que ce type d'infrastructure pouvait imposer, pour des raisons de sécurité, un renforcement de dispositifs étatiques de contrôle des populations, mais aussi des territoires, donc surveillance, quadrillage, nouvelle forme de découpage également de l'espace, et en particulier en cas de catastrophe. Alors on a vu depuis que les catastrophes d'origine nucléaire, hein, pouvaient poser quelques problèmes de transparence démocratique et pouvaient aussi ébranler les relations entre gouvernants et gouvernés. Aujourd'hui, dans la situation pandémique que nous connaissons, hein, autour de la question de l'état d'urgence sanitaire, eh bien, on a sans doute une actualisation, hein, de ces débats autour du respect de l'état de droit, autour des libertés publiques. Alors, bien sûr, tous ces termes, hein, état de droit, liberté publique, transparence démocratique, sont totalement anachroniques pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans mon intervention, c'est-à-dire la société d'Ancien Régime. Et malgré tout, la question qui est posée, c'est comment, dans une situation épidémique, eh bien, les pouvoirs qui s'exercent sur les populations et sur les territoires sont susceptibles de s'accroître et éventuellement d'être transformés. Ce terme de police, hein, qui est au cœur de l'intervention, c'est un terme qui est beaucoup plus large, beaucoup plus englobant que ce qu'on entend aujourd'hui par police. Hein, ça va bien au-delà du maintien de l'ordre. Entendons par là la préservation de la tranquillité publique, la protection des personnes et puis des biens, et puis il y aurait aussi la sûreté de l'État. Alors, tout ça, ça fait partie, dans une certaine mesure, de la police d'Ancien Régime, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et le synonyme le plus commode, c'est d'employer le terme d'administration et en même temps d'administration urbaine. La police, c'est un attribut de la souveraineté monarchique, mais depuis le XVIe siècle, ses pouvoirs de police sont très largement délégués à tout un ensemble de pouvoirs, et au premier rang de ces pouvoirs, eh bien, on trouve les échevinages, on trouve les municipalités. En matière de lutte contre l'épidémie, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, force est de constater l'impuissance des médecins. Donc, ça veut dire que lutter contre une épidémie, c'est d'abord et avant tout s'appuyer sur des dispositifs administratifs, donc sur des dispositifs de police. Donc, lutter contre l'épidémie, c'est d'abord une affaire d'administration. Et donc, les questions que je vais aborder aujourd'hui sont liées à ce constat, dans quelle mesure, donc, la situation d'épidémie provoque-t-elle une transformation, une évolution de l'organisation de ces pouvoirs de police, une transformation éventuelle des pratiques également de police. On va s'appuyer sur l'exemple de Marseille, mais on va ensuite réfléchir à l'onde de choc au-delà de la peste de 1720-1722, parce qu'elle dure à peu près 23 mois. Eh bien, quelle est la trace qui est plus ou moins durable, qui est laissée et qu'on peut retrouver dans les dispositifs policiers urbains ailleurs dans le royaume? Je vais beaucoup m'appuyer, et c'est une chance, hein, sur une thèse dont je n'ai pas été le directeur, mais que j'ai eu à apprécier comme membre de jury, hein. C'est la thèse de Fleur Beauvieux, que nous avions souhaité inviter voici plusieurs années dans ce séminaire Ville de Caen, mais qui n'avait pas pu nous rejoindre. Et donc, cette thèse, qui a été soutenue en 2017, s'intitule Expérience ordinaire de la peste, la société marseillaise en temps d'épidémie 1720-1724. Dans cette thèse, il y a une dimension vie quotidienne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit dans une ville qui est atteinte par la peste, car tout le monde ne quitte pas la ville. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, toute une réflexion et tout un tas d'éléments nouveaux qui ont été apportés sur la constitution d'une police de la peste à l'échelle de la ville, mais qui a eu donc un retentissement en dehors des murs de Marseille. Ce travail de Fleur Beauvieux, hein, s'est inscrit à la, un peu au point de rencontre de deux traditions historiographiques. Une première tradition historiographique, donc cette tradition historiographique, je n'en ai ici retiré que quelques exemples, quelques illustrations, hein. C'est la très riche donc veine d'ouvrages consacrés à la peste en général et à la peste de Marseille en particulier, hein, l'ouvrage ancien mais majeur et longtemps inégalé sur la peste de Marseille, c'est celui de Carrière, Courdurier et Rebuffat. Hein. Bon, il y a bien sûr les travaux fondamentaux à une échelle beaucoup plus large de Jean-Noël Biraben, dont peut-être tout à l'heure Laurent nous parlera. Et puis il y a aussi toute une tradition d'études dans les pays méditerranéens, notamment en Italie. Hein, et là, je mets en avant un ouvrage important d'Alessandro Pastore sur la criminalité et la justice dans les villes en temps de peste, à l'époque moderne. Et c'est un ouvrage qui a inspiré très clairement Fleur Beauvieux dans son travail. Et puis la deuxième tradition historiographique, eh bien, c'est celle de l'histoire des polices, hein, qui s'est fortement renouvelée dans les 25 dernières années, autour, on va dire, d'une histoire sociale de l'institution qui est très attentive aux acteurs, aux pratiques et à ce qu'on a appelé à certains moments les systèmes policiers, c'est-à-dire la manière dont les pouvoirs de police qui sont très diversifiés, il n'y a pas de police nationale sous l'Ancien Régime et il n'y en aura pas longtemps, hein, avant 1941 en France, il n'y a pas de police nationale véritablement. Donc cette diversité des pouvoirs de police, elle est agencée, elle est configurée de manière spécifique, de manière propre à chaque ville, même s'il y a des points qui peuvent être communs, et notamment l'un des points communs sur lequel on reviendra, c'est l'importance des pouvoirs de police qui sont dévolus aux municipalités. Donc, si vous voulez, autour du cas marseillais, hein, je vais essayer d'aborder trois points. Un premier point qui consiste classiquement en bonne rhétorique académique à brosser un peu une toile de fond, c'est-à-dire à rappeler l'importance de ces pouvoirs de police municipaux et comment certains d'entre eux au moins ont pu développer des dispositifs spécifiques de lutte contre l'épidémie, notamment l'épidémie de peste avant même la peste de 1720. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra ce que signifie l'invention entre guillemets de la peste, d'une police de la peste à Marseille entre 1720 et 1722. Et puis enfin, dans une troisième partie, eh bien, j'évoquerai la dimension créatrice entre guillemets de cette catastrophe, et j'essaierai de pointer un certain nombre de dynamiques policières post-épidémiques, montrer comment la protection sanitaire a pu engendrer des dispositifs sécuritaires beaucoup plus larges, même si la peste à elle seule n'explique pas tout. Donc, premier point, pouvoir de police et épidémie. Et donc, le premier point de ce grand point consiste à faire un rappel sur la diversité de ces pouvoirs de police anciens. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de police nationale ou il n'y a pas une institution centralisée de police. Il y a des pouvoirs de police, et encore une fois, police, c'est beaucoup plus large que de nos jours, puisque si vous ouvrez le célèbre traité de la police de Nicolas de Lamare, vous avez l'inventaire des ce qu'on appelle les matières ou les objets de police. Et donc, ça commence à la religion et ça finit à la police des pauvres, des vagabonds, mais ça inclut toute une dimension de police économique autour du commerce des vivres, mais autour de la régulation du marché du travail aussi. Il y a aussi la police des mœurs, la défense de l'orthodoxie religieuse, et puis tout ce qui est lié à l'administration urbaine, la voirie, l'urbanisme, la salubrité urbaine, par exemple. Donc, je n'insiste pas, mais il faut vraiment avoir en tête que ça englobe de très larges domaines de compétences, donc qui équivalent à tout ce qui peut servir en quelque sorte à faire vivre la communauté urbaine dans une certaine harmonie et dans une certaine prospérité. Très souvent également, cette police, elle est mêlée à des pouvoirs de justice. Avant la Révolution française, justice et police sont mal séparés, et donc nombre d'officiers de justice sont en même temps dotés de pouvoirs de police. Alors, qui détient la police sous l'Ancien Régime, et par exemple au moment de la peste en Provence? Eh bien, les cours de parlement sont dotées de pouvoirs de police, les intendants des généralités sont dotés de pouvoirs de police et d'administration. D'ailleurs, vous le savez, les intendants sont dits de justice, police et finance. Un certain nombre d'officiers de la justice royale sont dotés de pouvoirs de police. Les gouverneurs militaires, donc là on passe du côté de l'armée, sont aussi dotés d'un certain nombre de pouvoirs de police, par exemple, on va le voir dans le contexte sanitaire d'une épidémie, mais aussi autour des questions de subsistance lorsqu'il y a des crises. Et puis les seigneurs sont dotés de pouvoirs de police. Les justices seigneuriales s'appuient aussi sur des pouvoirs de police, donc ça en ville et à la campagne. Et puis les échevinages, les municipalités ont des pouvoirs de police. Donc ça veut dire que ce que vous avez peut-être en tête, à savoir le modèle parisien avec sa lieutenant général de police, qui est étroitement contrôlé par le Conseil royal depuis sa création en 1667, ça relève de l'exception. Alors même s'il y a un édit qui en 1699 généralise les lieutenants généraux de police dans un certain nombre de grandes villes du royaume, c'est une réforme en trompe-l'œil qui est surtout motivée, comme toujours à la fin du règne de Louis XIV, par des impératifs financiers, parce que les municipalités, pour ne pas perdre leurs prérogatives de police, eh bien, elles vont racheter ces nouvelles charges de lieutenant général de police. Et dans le cas de Marseille, eh bien, l'un des échevins détient la charge de lieutenant général de police de la ville de Marseille. Alors donc, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas toute cette pyramide ou cet écheveau de cet imbroglio de pouvoir de police, mais c'est d'abord et avant tout le pouvoir municipal, donc, qui est une réalité de base pour comprendre la police d'Ancien Régime. Ces polices urbaines, depuis le XVIe siècle, sont caractérisées par au moins trois choses. Tout d'abord, par un pouvoir réglementaire qui va s'exprimer à travers la capacité à publier des ordonnances de police, c'est-à-dire donc des textes réglementaires qui portent sur le bon fonctionnement matériel de la cité et sur donc la préservation morale, spirituelle, sociale, économique de la communauté urbaine. Tout un tas de mesures qui portent par exemple sur la voirie, l'entretien de la voirie, mais aussi le commerce, etc., font l'objet d'ordonnances de police qui sont publiées très régulièrement par les municipalités. On en a des collections dans les archives, qu'on soit à Marseille, à Toulouse, à Lille, ou à Strasbourg ou à Bordeaux. Deuxième caractéristique de ces pouvoirs de police, c'est le commandement d'une force exécutive, parce qu'il faut faire appliquer en quelque sorte ces règlements. Et donc là, on va aller chercher du côté des sergents, c'est un petit peu la main forte de la municipalité. Donc c'est une force d'exécution rémunérée par la ville, qui a le pouvoir d'arrêter et de conduire devant la troisième caractéristique du pouvoir de police, c'est-à-dire devant le tribunal de police qui est détenu par la ville pour juger les infractions à la réglementation qui a été édictée. Si je reviens un instant sur la force exécutive, donc qui est un petit peu le noyau de ceux qu'on appellerait, nous, véritablement des policiers, ce sont des premiers noyaux de professionnels de l'ordre public. Ils sont très peu nombreux dans les villes. Par exemple, à Lille, au XVIIIe siècle, ils sont six, on compte six sergents, donc qui servent de main forte au tribunal de police de l'échevinage, et très souvent, on tourne autour d'une dizaine de sergents. Donc, vous avez ces trois caractéristiques, un pouvoir réglementaire, une force exécutive mais qui est très limitée, et un tribunal qui fait respecter la réglementation et qui a le pouvoir, c'est une justice rapide, expéditive, et qui a le pouvoir donc de prononcer un certain nombre d'amendes pour punir les infractions à la réglementation municipale. Alors, en fait, la police de la ville a besoin d'une force supplémentaire, et cette force supplémentaire, eh bien, elle s'appuie non pas sur des professionnels de l'ordre public, mais sur un système entre guillemets d'autogestion, je dis bien entre guillemets, mais donc sur la contribution de ceux qui ont le titre de bourgeois de la ville, donc contribution à la défense de la ville, défense au sens militaire du terme, et également à la protection de la sûreté dans la ville. Donc en fait, le fonctionnement de la police municipale s'appuie sur de très nombreux petits officiers municipaux, donc qui ne sont pas des professionnels, mais qui exercent momentanément une charge dans une portion du territoire urbain. Alors ces personnages, on les retrouve dans toutes les villes, on va les appeler les cinquanteniers, les dizeniers, par exemple les sisonniers, etc. Donc ça correspond à une portion de territoire urbain qui sert de cadre à la mobilisation armée des bourgeois, donc bourgeois qui doivent contribuer à la défense aux remparts de la ville. C'est le système des bonnes villes, donc décrit par l'historien Bernard Chevalier pour la fin du Moyen-Âge et pour le XVIe siècle. Mais ces guets bourgeois, ces milices bourgeoises, elles ont aussi une fonction, on va dire, de sécurité publique, d'organisation des rondes, notamment nocturnes. Et en fait, au XVIIe et au XVIIIe siècle, la fonction militaire de ces milices bourgeoises, de ces guets bourgeois, a quasiment disparu. En revanche, les fonctions de police, elles, se sont maintenues. Donc, si vous voulez, on est bien passé là d'une sorte d'obligation de service militaire, hein, d'un devoir obligatoire, en contrepartie des privilèges politiques et fiscaux et judiciaires que les bourgeois ont. Et on est passé donc par extension de ce devoir militaire à des responsabilités de type policier, donc préservation de la police communautaire. Alors, ceux qui exercent ces charges-là, ce sont des notables de quartier, hein, des gens qui sont souvent propriétaires ou principaux locataires, qui ont des attaches dans le territoire urbain, des gens qui sont connus en quelque sorte des réseaux de voisinage, de leurs administrés, etc. Le rôle de ces petits officiers municipaux, hein, c'est de faire respecter la réglementation urbaine. Ils exercent en quelque sorte une sorte de police passive, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de magistrat, ils n'ont pas le pouvoir de dresser des procès-verbaux, par exemple. Mais ils surveillent leur îlot, leur rue, le voisinage. Ils surveillent les endroits sensibles comme les cabarets, les tavernes, les lieux d'accueil, les garnis. Ils rendent compte à la municipalité de tout ce qui est susceptible d'intéresser la police, les conduites scandaleuses, la prostitution, les comportements dangereux, par exemple tout ce qui risque de provoquer des incendies dans des villes qui pendant longtemps sont des villes de bois. Et même lorsqu'elles deviennent des villes de pierre, elles restent hautement inflammables. Lorsqu'on trouve des cadavres sur la voirie, c'est eux qui alertent, qui font rapport. C'est eux qui dénoncent aussi les vagabonds et qui sont chargés. Hein, c'est l'une des fonctions des dizeniers dans de nombreuses villes. Ils sont chargés de réaliser les rôles, donc de tenir des registres, de tenir des listes de toutes les personnes nouvelles, étrangères, qui arrivent dans le quartier. Donc les étrangers, les non-natifs de la ville font l'objet d'un contrôle de la part de ces petits officiers municipaux. Alors en temps d'épidémie, en quelque sorte, ces petits officiers municipaux qui constituent la trame, la base, l'ossature des polices municipales, eh bien, vont intervenir en quelque sorte, en faisant respecter la réglementation sanitaire ou en contribuant au contrôle de la mobilité, notamment des personnes, enfin des individus indésirables comme les vagabonds qui viennent de l'extérieur de la ville, ou également en contribuant au contrôle qui s'exerce aux portes de la ville. Alors, en plus, si vous voulez, de cette trame assez générale et qu'on va retrouver à Toulouse, à Lille, à Besançon, donc qui a été rattachée au Royaume de France qu'à la fin du XVIIe siècle, ou à Marseille, donc en plus de cette ossature, en quelque sorte, qui constitue la réalité ordinaire des polices municipales, dans un certain nombre de villes, et notamment dans les villes méditerranéennes, vous avez des dispositifs particuliers qui ont été implantés en raison de la menace récurrente d'épidémies, et notamment la menace de peste. En fait, l'histoire de la peste de Marseille, je ne vais pas rentrer là dans le détail événementiel, c'est l'histoire d'une négligence coupable doublée d'un déni persistant. Donc déni persistant parce que longtemps on a refusé de reconnaître officiellement l'état de peste qui sévissait dans la ville, et négligence coupable parce qu'il y avait des moyens de se préserver de la peste, et ces moyens ont été utilisés, on va dire, un peu en dépit du bon sens, ou en tout cas pas avec l'intensité nécessaire. En effet, Marseille, comme d'autres ports de l'espace méditerranéen, sont dotés depuis la fin du Moyen-Âge et au moins depuis le XVIe siècle d'un dispositif administratif de prévention. Les premiers éléments de ce dispositif de prévention, donc qui voit le jour, qui se généralise au XVIe siècle en Italie et dans le bassin méditerranéen, c'est ce qu'on appelle les bureaux de santé. Eh bien, ce sont des établissements en dur, et là vous avez une photographie qui vous représente un bâtiment du tout début du XVIIIe siècle, qui est installé à l'entrée du port de Marseille, hein, où on va trouver les intendants de santé de la ville de Marseille, c'est-à-dire des représentants du pouvoir municipal. Il y a plusieurs intendants de santé qui sont choisis chaque année parmi donc les représentants du pouvoir municipal pour exercer un contrôle sur les cargaisons et les équipages qui se présentent à l'entrée du port de Marseille en provenance donc du bassin méditerranéen. Alors Marseille et Toulon ont une sorte de monopole commercial, c'est-à-dire que les bâtiments qui sont en provenance du Levant, c'est-à-dire de la Méditerranée orientale, et en provenance de la Barbarie, c'est-à-dire de la côte, enfin du littoral maghrébin, enfin de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, etc. Donc les navires doivent arriver à Toulon et à Marseille. Et ce monopole commercial, il est doublé, hein, d'un monopole sanitaire, puisqu'il y a dans ces deux villes donc un bureau de santé qui doit délivrer un document particulier, donc ce qu'on appelle une patente de santé. Alors là, c'est une patente de santé qui est postérieure à l'épisode de 1720. C'est une patente de santé de 1725 et qui est signée par le consul du port de Meudon. Alors Meudon, aujourd'hui, ça ne vous dit rien. C'est le port de Métonie, en Grèce, hein, sur la côte occidentale du Péloponnèse. Alors, qu'est-ce que c'est que le système des patentes de santé? Eh bien, c'est un certificat qui est délivré par les autorités du port de départ et qui ensuite doit être visé dans chaque port où on fait escale jusqu'au port d'arrivée. Et là, ce document va attester que la cargaison et l'équipage sont indemnes de toute contagion, hein, compte tenu de toutes les étapes qui ont été faites. Donc quand il n'y a pas du tout de contagion, eh bien la patente est dite nette. Ça veut dire que tous les ports qu'on a traversés, etc., on n'a jamais croisé l'épidémie. Lorsqu'il y a une suspicion, donc votre patente est dite touchée, hein, et sinon la patente est brute lorsque vous avez été contaminé, lorsque vous êtes passé dans un port où l'épidémie sévissait. Et donc, en fonction de la qualité de la patente, eh bien, vous allez devoir subir ou non une période de quarantaine, hein, quarantaine pour les marchandises, quarantaine pour les équipages et pour le navire. Donc, ici, vous avez le lazaret d'Arinque, donc qui est au nord de Marseille, entre les lances de la Joliette et celle d'Arinque, hein. C'est pas très loin, c'est à quelques centaines de mètres des murailles de Marseille, mais c'est quand même à l'extérieur. Et ces infirmeries, ce lazaret, il a été reconstruit dans les années 1660 sous Colbert. Ça fait en quelque sorte partie là des préoccupations de Colbert en matière d'infrastructures liées au commerce maritime. Et puis la photo qui est à côté, donc c'est dans l'île de Pomègue, le port du Pomerguet, où on garde en quarantaine les navires et les cargaisons. D'une façon générale, hein, la quarantaine des navires se fait dans les îles du Frioul. Au-delà donc de ces photos, de ces illustrations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un système qui repose sur une administration dédiée à la lutte contre la peste, sur des bâtiments en dur, exemple donc les lazarets ou la consigne à l'entrée du port de Marseille, et il y a du personnel qui est spécialisé, des médecins, des gardes, des débardeurs, des ouvriers, hein, qui sont en lien avec ce dispositif. Ces bureaux de santé, hein, sont financés par le négoce, et en fait, ce dispositif de protection participe d'un système qui est un système de confiance entre places de commerce. L'objectif, c'est de rassurer ceux qui vont faire du commerce sur l'innocuité, sur le fait que les cargaisons sont indemnes de tout risque de contagion. Et donc, on a tout un réseau d'informations entre les ports méditerranéens, donc qui s'est constitué pour protéger en quelque sorte les circuits commerciaux. On n'a pas encore, c'est ce que va vous expliquer dans un deuxième temps tout à l'heure Laurent, une conception largement territorialisée, hein, de la protection. C'est plus un système d'information et de contingentement des équipages et des marchandises lorsqu'il y a suspicion de contagion. Alors, ce système ne disparaît pas, hein, après la peste de 1720, après la peste de Marseille, mais le monopole de Marseille et de Toulon va demeurer au XVIIIe siècle, mais il sera contesté, hein, notamment, c'est pour ça que je le dis, puisque vous êtes en Normandie, eh bien, par les ports du Ponant, hein, notamment le port du Havre, qui va vouloir avoir son propre dispositif de quarantaine et de protection pour voilà, accompagner l'essor du commerce sur le littoral donc du Ponant. Dans le cas donc du bureau de santé marseillais, qui n'est pas une exception, il y a quand même une question générale qu'on peut poser, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre servir les intérêts du commerce et servir la santé publique. Et si cette question, on peut la poser, eh bien, c'est parce que, malheureusement, l'épidémie de Marseille en 1720 montre que, en raison de l'importance du capital que représentait la cargaison du Grand Saint-Antoine, donc qui arrive à la fin du mois de mai, contaminée, hein, il arrive en provenance de la Méditerranée orientale et notamment de Syrie. Donc là, il a croisé la peste. On sait que la cargaison est contaminée, mais c'est une cargaison de haut prix. Et donc, on ne va pas respecter les mesures de quarantaine. Et une fois que la peste va être arrivée dans la ville, on va longtemps dire que c'est une fièvre maligne limitée aux quartiers les plus pauvres et les plus densément peuplés de Marseille. Donc ceux qui correspondraient à la vieille ville et ce qu'on appelle encore aujourd'hui le quartier du Panier. Hein, mais on refuse d'admettre que c'est la peste qui frappe et la peste qui est arrivée à cause d'un mauvais respect des mesures de quarantaine. Donc, on avait les moyens de lutter contre la peste à Marseille, hein, et on ne les a pas respectés. Alors, au-delà des problèmes sanitaires qui sont immédiatement posés, hein, d'autres problèmes relevant de l'administration urbaine et de la police urbaine vont devoir être traités. Les tableaux très célèbres de Michel Serres, hein, qui sont consacrés à la peste, à l'épisode de la peste de Marseille et qui offrent donc le spectacle de désolation absolue qui va avec cette peste. Donc, il y a eu tout un tas de littérature et d'écrits, hein, d'études faites sur les représentations littéraires, iconographiques, etc., des épisodes pesteux dans d'autres villes comme Naples, que Alain connaît bien. Donc là, moi, je ne vais pas insister là-dessus. Vous avez juste un personnage, hein, qu'on voit sur le deuxième tableau, celui qui est pour moi à ma droite, alors peut-être pour vous aussi. Vous avez un personnage à cheval, hein, qui est le chevalier de Rose, dont je reparlerai tout à l'heure. Hein. Mais la peste, on déstructure totalement la société, tous les cadres des relations sociales habituelles volent en éclats, tous les cadres religieux volent en éclats, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais vous avez deux problèmes qui ressortissent de l'ordre public qui se posent immédiatement. C'est d'abord parce que toute l'organisation commerciale et économique, bien sûr, s'arrête et derrière arrive la crise sociale. Donc le premier problème dans toutes les villes qui sont frappées par ce type de catastrophe, c'est le risque d'émeutes liées au risque de famine et aux problèmes d'approvisionnement. Et le deuxième problème qui va intéresser l'ordre public et la police, c'est l'explosion de la criminalité. La peste arrive hein, donc à la fin du printemps à Marseille, et elle monte véritablement à partir de la deuxième quinzaine de juillet. Le paroxysme, c'est août-septembre, et donc les tableaux que vous avez vus précédemment, hein, vous avez plusieurs milliers de cadavres qui sont abandonnés dans les rues et qu'il va falloir évacuer. Mais en fait, hein, le premier problème, je le disais, donc ça va être la question de l'approvisionnement. Au-delà même des problèmes de santé, au-delà des problèmes donc d'insalubrité et des problèmes sanitaires. Immédiatement après l'interruption officielle du commerce, puisque l'état de peste est officiellement déclaré par le Parlement de Provence au début du mois d'août, vous avez des émeutes non pas de la faim, de famine, mais des émeutes de cherté. Et d'ailleurs, vous avez des témoignages, comme par exemple celui de la Gazette de Hollande, et la Gazette de Hollande hein, explique que on va mourir à Marseille de faim et de maladie. Alors, en fait, les travaux qui ont été réalisés, par exemple, les travaux anciens de Carrière, Rebuffat, etc., qui ont pris en compte cette dimension économique, montrent que il n'en est rien et que la ville intervient très vite pour faire baisser les prix. Donc elle a des réserves, elle procède aussi à des réquisitions et elle bloque les prix très rapidement. Donc ce qui veut dire que l'une des fonctions essentielles de la police urbaine, l'une des responsabilités majeures de tous les pouvoirs de police, c'est de nourrir le peuple. Ça fait partie du contrat qui est passé avec la monarchie. Le roi est un père nourricier pour ses sujets, et la déclinaison en quelque sorte de ce contrat se lit à travers donc cette fonction essentielle de la police d'Ancien Régime, qui consiste donc à réglementer les marchés, à intervenir sur les marchés pour créer les conditions donc de farine et d'un pain accessible à toutes les bourses, y compris aux bourses les plus populaires. Donc là, nourrir le peuple, eh bien, la mission en quelque sorte est accomplie pendant toute la durée de la peste, et on est dans un répertoire d'actions entre guillemets policiers tout à fait classique depuis le XVIe siècle. Le deuxième problème, c'est l'explosion de la criminalité, donc qui a par exemple été bien montré dans le cas des villes italiennes par Alessandro Pastor. En fait, cette explosion de la criminalité, alors elle est liée à la déstructuration de tous les systèmes de régulation sociale, contrôle par le voisinage, etc., etc. Donc il y a beaucoup de maisons qui sont abandonnées, en quelque sorte les tentations deviennent multiples, et puis il y a aussi d'autres occasions comme toutes les possibilités qui sont données de détrousser les cadavres qui sont abandonnés. Et il y a d'ailleurs hein, dans les discours qui sont tenus sur la société en temps de peste hein, tout un tas de choses qui expliquent que la ville pesteuse hein, c'est aussi la ville de tous les excès, de tous les dérèglements qui se lisent notamment à travers la criminalité. Alors Fleur Beauvieux, par exemple, hein, a regardé les archives du tribunal de police de Marseille pendant la peste, et elle a pu constater que entre 1720 et 1722, à peu près 40% des délits qui sont jugés portent sur la criminalité contre les biens, hein, le vol et aussi la contrebande. Alors le problème de cette partie de la thèse de Fleur Beauvieux, c'est qu'elle n'a pas fait de sondage pour comparer avec ce que donne la criminalité ordinaire. Donc on ne sait pas s'il y a une hausse de la criminalité contre les biens pendant cette cet épisode pesteux. Mais si on raisonne par analogie, donc confère les travaux d'un certain nombre de chercheurs italiens, oui, il y a bien une explosion de la criminalité. Alors, on en a une preuve, si vous voulez, par l'inverse, mais un peu détournée, quand on regarde le fonctionnement du tribunal de police, dont je reparlerai tout à l'heure, parce que ce tribunal de police, pendant la peste, il va être transformé en tribunal d'exception, avec des pouvoirs exorbitants. C'est-à-dire qu'en fait, un tribunal de police, habituellement, ça juge des petits délits, des fautes de balayage, problèmes de voisinage, etc., et ça prononce des amendes. Le tribunal de police de Marseille, pendant la peste, hein, va récupérer la justice criminelle, ce qui n'est pas le cas d'habitude, hein, et il va pouvoir prononcer des peines, des sentences très dures, des peines afflictives, des peines corporelles, jusqu'à la peine capitale. Et donc on voit bien qu'il y a une sorte de durcissement de l'appareil judiciaire qui est sans doute au minimum le signe d'une sensibilité particulière à l'égard de certains dérèglements et notamment à l'égard de la hausse de la criminalité. Mais au-delà de ce fonctionnement, on va dire, classique de la police urbaine, assurer l'approvisionnement, et de ce durcissement que là je pointe, la vraie question qui est posée, deuxième grande partie, c'est l'invention d'une police de la peste originale à Marseille en 1720. En fait, la ville en temps de peste va voir se transformer ses institutions policières traditionnelles. Jusqu'à quel point et dans quelle mesure ? Premier point, on instaure ce qu'on pourrait véritablement appeler un état d'exception qui n'est pas conceptualisé comme tel, mais ça revient en pratique et empiriquement à ça. Et l'un des grands animateurs de cet état d'exception à Marseille, c'est Langeron. Langeron, donc, qui est un officier de marine qui va être nommé à la fin de l'été 1720, donc pendant le paroxysme de la peste, on voyait le clocher de mortalité tout à l'heure, qui va être nommé donc commandant militaire de la ville de Marseille. Alors avant de parler du personnage, le premier symptôme à Marseille de ce glissement vers un état d'exception, c'est qu'on a la production d'une réglementation particulière liée à la peste qui a été conservée dans un registre exceptionnel qui s'appelle encore les registres de la peste, qu'on trouve encore aux archives municipales de Marseille. Donc c'est un recueil d'environ 200 documents qui est distingué des collections habituelles d'ordonnances municipales. Les ordonnances de police des villes sont souvent reliées, conservées en recueil. Et là, donc, on fait un recueil particulier pour cette police de la peste. Sans surprise, quand on regarde les thèmes qui sont abordés dans ce recueil, eh bien, vous avez la santé, c'est près de 30% du total de ce recueil. On a ensuite un bloc économique qui est très important, avec le commerce autour de 20% des décisions, le contrôle des arts et métiers, 10%, la voirie, donc là, on est plutôt vers ça peut être la circulation, donc en lien avec le commerce, mais c'est aussi la salubrité, 10%, et la sûreté publique, environ 13% des textes qui sont promulgués. Alors, en fait, on s'aperçoit que au début, les textes qui sont promulgués sont des textes qui réitèrent des dispositions anciennes, on va dire sur la santé publique, sur l'expulsion des personnes à risque, comme par exemple les vagabonds qui ne sont pas natifs de la ville et qui ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre des quartiers et des paroisses. Et puis, de plus en plus, on va avoir des ordonnances qui deviennent plus précises et qui portent sur des opérations spécifiques, des opérations de désinfection de l'espace, de contingentement de la population, de marquage de l'espace, de création de nouvelles forces de police et de mise en place de dispositifs de contrôle qui sont inédits. Alors, le sens de ce recueil, c'est sans doute de garder la mémoire de tout ce qu'on a fait en cas de récidive. On sait que les pouvoirs de police, et notamment les villes, ont le souci de garder leurs archives, et notamment leurs archives de police, à des fins de légitimation des pouvoirs de police municipaux. On sait que Marseille, au XVIIIe siècle, porte un soin particulier à ses archives, notamment pour conforter les pouvoirs de police de la ville. Sauf que là, c'est pas un problème de légitimation, d'autant plus que ces pouvoirs de police sont désormais largement partagés entre les échevins qui restent à leur poste, qui sont toujours détenteurs de police, mais qui sont supervisés par un super chef de la police marseillaise, c'est le commandant militaire, c'est Langeron. Donc ce partage de pouvoir est le deuxième signe de l'état d'exception dont la marque, finalement, ça va être la militarisation de l'ordre public. La transformation du tribunal de police que j'évoquais tout à l'heure en un tribunal d'exception doté de pouvoirs de justice criminelle exceptionnel parce que on ne peut pas faire appel des décisions de ce tribunal de police, qui est totalement anormal. Normalement, une juridiction de ce rang-là doit rendre des comptes, ou en tout cas on peut en faire appel à la juridiction royale supérieure, celle du Parlement. Donc là, les justices royales sont suspendues. La sénéchaussée, donc la justice royale locale, elle est suspendue pendant plus d'un an, et le Parlement de Provence ne peut pas servir d'instance d'appel aux décisions, aux sentences qui sont prononcées par la justice de la ville, contrôlée donc par le pouvoir militaire. Il y a bien là une transposition dans le domaine judiciaire de la militarisation de l'ordre public. Alors, cette militarisation de l'ordre public, on le voit tout de suite dans les rues, parce que vous avez un recours, alors qui existe à l'échelle du royaume, mais on assiste donc à la prolifération des forces militaires dans la ville, aux portes de la ville et dans la province et au-delà, donc pour faire respecter un certain nombre de règles. Donc, dans les quartiers de la ville de Marseille, dont vous avez ici une représentation, eh bien, vous avez des patrouilles militaires régulières, deux fois par jour, le matin, le soir, pour vérifier l'entretien des quartiers. Il y a des sentinelles qui sont postées devant les maisons de ceux qui ont été contaminés pour éviter les pillages, mais également soit pour imposer le respect de la quarantaine pour ceux qui sont enfermés dans les maisons contaminées, mais en général, ceux qui sont contaminés, eh bien, on va les évacuer dans différents hôpitaux, dans différents hospices qui sont là pour accueillir les pestiférés. La troupe, elle sert aussi à vérifier, à contrôler les mobilités. Et donc, l'ampleur des opérations de contrôle qui sont à réaliser, eh bien, ça va se traduire par une inflation de moyens de contrôle et donc par la militarisation. Donc, des soldats par dizaines aux portes de la ville, des patrouilles multiples qui servent donc au contrôle que je viens d'évoquer. Et ce contrôle militaire s'exerce aussi sur ceux qui ont des responsabilités qui sont enrégimentées pour évacuer les cadavres dans la ville, donc notamment les forçats, donc les bagnards qui sont dans l'arsenal de Marseille, puisque Marseille accueille un certain nombre de bagnards, confère les travaux d'André Zisberg sur les galériens, et donc les forçats sont enrégimentés, encadrés par la troupe pour évacuer par exemple les malades dont on a vu une image tout à l'heure. Alors, les contrôles servent notamment aussi donc à contrôler les mobilités, je vais y revenir. Le contrôle de la mobilité va se faire à partir de la présentation d'un passeport, donc d'un billet de santé ou d'une bullette de santé. Donc c'est délivré par les autorités, et donc si vous déplacez, puisque normalement vous n'avez pas le droit de vous déplacer, mais si vous déplacez, vous devez pouvoir présenter ce type de document qui est un peu, pour, à titre personnel, l'équivalent de la patente de santé que j'évoquais tout à l'heure dans un contexte commercial. Et donc les militaires aux différents postes de garde vont vérifier que vous êtes bien détenteur de ce document. Et si vous n'êtes pas détenteur de ce document, eh bien, ça n'est pas 135 € d'amende, c'est même pas un passage à tabac et une insulte raciste, mais c'est potentiellement la peine de mort. Alors, militarisation de l'ordre public, mais plus encore, il y a une transformation des institutions policières municipales, et c'est le deuxième point que je veux évoquer. En temps normal, la police de Marseille, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près 150 personnes. Il y a 6 commissaires de la ville qui dépendent de l'échevinage. Il y a 4 capitaines de quartier, puisqu'il y a 4 quartiers dans cette ville de Marseille. Et chacun de ces capitaines, donc qui sont des choisis dans la bourgeoisie, dans le cadre d'un cursus honorifique et un cursus qui est aussi politique, il pilote à peu près 25 hommes chacun. Bon, il y a d'autres gardes, les gardes de l'hôpital de la Charité, hein, qui servent à l'enfermement des pauvres. Il y a encore quelques autres officiers municipaux qui peuvent servir à des opérations, on va dire, de tranquillité publique. Mais c'est en gros 150 hommes. Ça n'est pas assez, et donc à Marseille, comme dans toutes les villes voisines, on va assister au gonflement des effectifs habituels de la police bourgeoise, de tous les groupes qui sont chargés ordinairement d'assurer l'ordre public. Et donc on assiste à une inflation de commissaires. Donc vous avez un gonflement des effectifs de la garde bourgeoise ordinaire, hein, qui est souvent multiplié par deux. Et en plus, vous avez des nouveaux personnages, donc des commissaires, des gens qui vont recevoir une mission temporaire dans les quartiers ou dans l'espace de la ville qui va être redécoupé en 6 quartiers. Donc ces commissaires, vous avez des commissaires généraux à l'échelle du quartier et ensuite une myriade de petits commissaires qui exercent des fonctions spécialisées. Donc ici, vous avez une statue en mémoire du chevalier de Rose, hein, qui est le personnage qu'on voyait sur l'un des tableaux de Michel Serres tout à l'heure. Donc lui, c'est un ancien armateur et qu'on va désigner comme commissaire du quartier de la Tourette. Et il va être donc une sorte de chef d'orchestre dans ce quartier, à la fois pour évacuer les cadavres, fait creuser des fosses communes, etc., pour maintenir l'ordre. Et il va, au-delà donc d'une compagnie de forçats qu'il commande, etc., avec des forces armées, il va piloter donc un certain nombre de commissaires. Donc il y en a à peu près 300 qui sont désignés dans la ville de Marseille, dont certains sont juste des commissaires des îles. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un commissaire des îles? Eh bien, c'est quelqu'un qui est chargé de certaines tâches dans une ou deux rues. Et donc ces tâches, donc ça peut être des tâches de désinfection, on peut superviser les opérations de désinfection dans une rue. On peut être commissaire pour contrôler les pauvres, hein, éventuellement les enrégimenter comme les forçats pour évacuer les cadavres ou pour distribuer des secours, etc. Et donc vous avez là une sorte d'appareil qui se superpose à l'appareil, on va dire, de la police bourgeoise traditionnelle, sans s'y substituer, qui complète en quelque sorte cette police bourgeoise, mais les ressorts sont les mêmes, parce que qui devient commissaire dans son quartier? Eh bien, des petits notables, souvent donc des artisans, des boutiquiers, des gens qui sont connus de la population de leur quartier. Ils sont très nombreux dans chaque quartier. Dans le quartier des Accoules, par exemple, on en compte, qui est situé au nord de Marseille, hein, zone du Panier, en gros, aujourd'hui, on en compte à peu près une cinquantaine. Donc, si vous voulez, cet appareil, il n'est pas forcément destiné à être durable, puisque comme le nom de ces acteurs l'indiquent, ils reçoivent une commission, c'est-à-dire une mission temporaire. Donc, ça n'est pas forcément destiné à durer, mais on voit bien qu'il y a là une transformation de cet appareil policier, une sorte de prolifération institutionnelle, mais qui repose sur les mêmes ressorts, c'est-à-dire on mobilise les notables des quartiers, ceux qui n'ont pas fui, et on assiste en fait pendant la crise à une sorte d'extension des bases du pouvoir municipal et de la participation bourgeoise. Mais il y a quand même du nouveau, impulsé par le pouvoir militaire, et du nouveau qui rappelle peut-être des solutions parisiennes, même si là on ne peut pas dire qu'il y a une duplication des solutions parisiennes. Mais c'est depuis le début du XVIIIe siècle, hein, les Parisiens ont vu apparaître des inspecteurs de police. Eh bien, Langeron essaye de mettre en place des inspecteurs de police en 1722-1723. Et là, vous avez voilà, un acte de création des inspecteurs de police en août 1723. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont recrutés parmi d'anciens militaires, comme le seront les inspecteurs policiers parisiens. Et ce ne sont pas des gens qui obéissent au pouvoir municipal, mais ce sont des gens qui obéissent directement au pouvoir militaire de Langeron. Donc c'est vraiment un nouveau corps de police, et un corps de police qui va se spécialiser notamment dans le respect d'une partie de la réglementation, c'est-à-dire le contrôle des lieux d'accueil et la chasse donc à certains indésirables, notamment aux pauvres et aux étrangers, entendez par étrangers les non-natifs de la ville. Cette nouveauté policière, elle rompt là véritablement avec les principes de la régulation bourgeoise et de la régulation de voisinage qui prévalait jusqu'alors. Et d'ailleurs, cette nouveauté, elle ne dure que 2 ans, parce que dès que la peste s'éloigne, dès voilà, 1723, eh bien, l'échevinage proteste, le Parlement de Provence proteste, avec des arguments, ça coûte trop cher parce qu'il faut les payer. La population n'aime pas une police qui est faite non pas par des bourgeois, mais par des militaires. En fait, derrière ces arguments, il y a une réalité politique qui est que voilà, cette mesure, eh bien, c'est une ingérence illégale, disent les magistrats du Parlement, dans les pouvoirs de police habituels, ceux de la municipalité, ceux du Parlement de Provence. Et d'ailleurs, la preuve qu'on n'est pas loin de l'usurpation, c'est que Langeron, en 1723, a récupéré le titre de lieutenant général de police de la ville de Marseille, alors que normalement, c'est l'échevinage qui conserve ce titre. Donc, cette réorganisation des forces de police, elle est ici notable, mais elle va s'accompagner aussi de la mise en place de dispositifs qui, là aussi, attirent l'attention. Ces dispositifs visent l'enregistrement renforcé de la population et s'appuient sur un quadrillage systématique et original de l'espace. C'est en fait la diapositive ou le thème qui était annoncé dans la diapositive précédente, à savoir la déclinaison de la logique du cordon sanitaire, dont va nous reparler tout à l'heure Laurent, mais la peste de Marseille va être cantonnée dans le quart sud-est du royaume à cause de l'efficacité des mesures de contingentement, à cause de l'efficacité du cordon sanitaire qui va ceinturer toute la Provence. Mais ce cordon sanitaire, il est décliné. Il est décliné à l'échelle du terroir de Marseille, c'est-à-dire en gros de la périphérie immédiate de la ville, où vous allez avoir aussi une sorte de ceinture militaire avec à peu près 90 postes de garde, plusieurs centaines de policiers qui sont mobilisés et qui sont renforcés par plusieurs centaines de paysans qui sont mobilisés donc pour contrôler les circulations à la périphérie, dans la banlieue, si vous voulez, de la ville. Il faut bien garder des points d'entrée quand même, pour organiser des marchés pour l'approvisionnement, mais ces marchés donc sont enserrés de ceinturés par des enceintes, par des barrières, sont étroitement contrôlés. C'est pas du tout des marchés libres. Alors en fait, ce système de découpage et de quadrillage, eh bien, il est finement dupliqué, répercuté dans toute la ville. On garde la ville à ses portes, donc à travers son enceinte, mais on redécoupe, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'espace à l'intérieur de la ville en 6 quartiers, et on redécoupe encore les quartiers en îlots, et ça va jusque donc au marquage des maisons, croix rouge quand les maisons sont contaminées, croix blanche quand les maisons sont indemnes de toute contamination, et ça va donc jusqu'à l'apparition de véritables complexes, hôpitaux, où on accueille les pestiférés, charniers, où vont finir les mourants, et maisons de convalescence, donc ici maisons de l'observance, pour ceux qui en réchappent, à peu près entre 20 et 40% de ceux qui sont contaminés sans moyens médicaux véritablement efficaces arrive à en réchapper. Mais à l'intérieur de ce type de complexe, vous avez des systèmes de barrières, toutes les mobilités sont contrôlées par des militaires, hein, et théoriquement, vous avez une spécialisation des espaces en fonction de votre statut, si vous êtes suspect de maladie, si vous êtes malade de manière avérée, si vous êtes mort, donc voilà la fosse commune, ou si vous êtes en convalescence, en voie de guérison. À l'intérieur de ces enclaves, hein, le personnel médical est confiné. Et d'une façon générale, tous ceux qui jouent un rôle, par exemple les bouchers qui jouent un rôle dans les tueries de la ville, sont confinés dans l'enceinte des tueries. Les forçats donc qui évacuent les cadavres sont tous regroupés dans l'ancien hôpital des enfants trouvés. Donc vous avez à l'intérieur de la ville tout un système d'enclos, au point que l'un des témoins de cette peste de Marseille, hein, un religieux, le père Giraud, dit que la ville de Marseille est devenue un gigantesque hôpital général. C'est comme si le grand renfermement, cher à Michel Foucault, avait fait éclore dans la ville, hein, un système de clôture, de fermeture, au point que Fleur Beauvieux a pu mettre en avant la notion d'exclusion inclusive, dans la mesure où on ne peut pas expulser vers l'extérieur de la ville toutes les personnes qui sont suspectes ou contaminées, on est obligé de les contingenter, mais on est obligé de les exclure tout en les laissant à l'intérieur du site urbain. Donc il faut à ce moment-là découper, ségréger et organiser ces différents espaces clôturés et étroitement gardés et rendus étanche. Il me reste très peu de temps, donc je vais être obligé d'aller très vite, mais je voulais attirer votre attention en fait sur ce qui va rester au-delà de la peste de Marseille et au-delà de la ville de Marseille. Ce qui est frappant donc, c'est que la lutte menée contre la peste à Marseille, au-delà de la création temporaire d'un certain nombre de nouvelles forces, va s'appuyer sur des dispositifs qu'on va retrouver dans d'autres villes et qui vont perdurer au-delà du contexte sanitaire. Et ces dispositifs sont des dispositifs d'enregistrement systématique des populations considérées comme à risque et des dispositifs également de quadrillage de l'espace urbain. Alors ici, il faut être prudent dans la mesure où la peste ne fait pas tout. Ça n'est pas le sillage de la peste de Marseille qui explique la dynamique de transformation des pouvoirs et des systèmes policiers urbains tout au long du XVIIIe siècle. Mais quand même, là où les historiens ont eu la puce à l'oreille, c'est lorsqu'ils se sont mis à travailler dans un long XVIIIe siècle sur tous les dispositifs de contrôle de la mobilité des personnes, qui sont des dispositifs qui se développent de plus en plus au cours du XVIIIe siècle. Et donc on voit bien dans un certain nombre de villes comment on est passé du contrôle de la peste à une police des étrangers. En fait, les étrangers font l'objet depuis le XVIe siècle, hein, d'un certain nombre de dispositifs réglementaires. Depuis le XVIe siècle, quand il y a des épisodes d'épidémie, il y a des épisodes de peste, les vagabonds et les miséreux sont ciblés par la législation comme vecteur de la maladie, et en général ils sont expulsés. Mais au-delà de ces mesures ponctuelles, ce qui est frappant, c'est qu'on va mettre en place au XVIIIe siècle dans certaines villes des dispositifs de contrôle pérennes. Je donnerai rapidement deux exemples. L'exemple de Toulouse. Comme dans de nombreuses villes, à Toulouse, l'épidémie de 1720 va se traduire par un durcissement des contrôles effectués aux portes de la ville. Donc il s'agit de contrôler la circulation des personnes et la circulation des marchandises. Mais au-delà de ce durcissement, on réfléchit au dispositif et on instaure, par exemple, dans le courant de l'année 1720, un dispositif visant spécifiquement les étrangers, avec apparition d'un registre du contrôle des étrangers tenu par les chevinages et qui va rester en place tout au long du XVIIIe siècle. on voit aussi que les déclarations qui doivent être faites devant les disonniers de la ville sont des déclarations qui deviennent beaucoup plus précises. On interroge beaucoup plus précisément sur les motifs du déplacement, sur la durée du séjour. Donc, on voit qu'il y a une attention croissante à l'égard donc de ceux qui viennent d'ailleurs et du contrôle de ceux qui sont étrangers à la ville. Et dans le cours du XVIIIe siècle, la réforme des disonniers, qui a lieu donc au milieu du XVIIIe siècle et au-delà à Marseille, on voit que l'institution qui est réformée se spécialise de plus en plus dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans une surveillance spécifique des étrangers. Mais là où, en quelque sorte, l'exemple est assez parlant, ou encore plus parlant, c'est à Bordeaux. À Bordeaux, on voit bien comment on passe de la police de la peste à des préoccupations sécuritaires beaucoup plus larges. Et vous avez des personnages qui ont été retrouvés, notamment la famille des Puddefer. Alors, les Puddefer, père et fils, ce sont des gens qui, au départ, sont commis à la surveillance des ballots, donc des marchandises qui viennent de l'extérieur, et donc les Puddefer, enfin le père d'abord et puis le fils, doivent vérifier donc que les marchandises qui arrivent à Bordeaux ne sont pas atteintes du mal contagieux. C'est eux qui contrôlent aussi les billets de santé des voyageurs, et donc ils vont, Puddefer, il va recevoir les déclarations des disonniers qui viennent des personnes qui arrivent dans la ville et qui disent devant les disonniers et chez les logeurs, qui déclarent donc leur identité, leur provenance, etc. Mais après la fin des mesures pesteuses, antipesteuses, en 1724, eh bien ces personnages restent en place, enfin Puddefer puis son fils, donc vont occuper toujours une mission particulière, et leur rôle, ça va être de contrôler les étrangers. Ils vont recevoir une mission avec le soutien de la ville, avec le soutien de l'intendant Boucher de la ville de Bordeaux, et ils vont en quelque sorte se spécialiser. Et là, vous avez un mémoire qui a été rédigé, donc un texte, un projet qui a été rédigé par Moïse Clou Puddefer, qui propose des modèles de déclaration que les étrangers à la ville devraient remplir lorsqu'ils arrivent à Bordeaux. Et on s'aperçoit que la commission qui est donnée à Puddefer est une commission qui est en quelque sorte expansionniste, puisque la branche de surveillance policière dont il est chargé, la police des étrangers, progressivement, eh bien, elle récupère d'autres secteurs comme la criminalité ou la mendicité. Donc on voit bien ici comment, à Bordeaux, le point de départ, c'est la peste, c'est la salubrité, c'est le contexte sanitaire, mais que ça conduit à une expansion sécuritaire beaucoup plus large. Alors, ce qu'il faut retenir ici, en quelques mots, c'est qu'au-delà de ces deux exemples, en fait, les dispositifs qui sont utilisés à Marseille, quadrillage et enregistrement, eh bien, on va les voir assez systématiquement mis en œuvre par les polices urbaines dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et on peut dire, c'est pas labourage et pâturage, mais quadrillage, découpage de l'espace d'un côté et enregistrement systématique des populations à risque, y compris pour leur assigner une place dans la ville, un espace dans la ville, eh bien, ce sont des ressorts qui deviennent de plus en plus courants des polices urbaines. Pour terminer rapidement, un registre qui a été mis en place donc par le Châtelet à la fin des années 1760 et qui vise à l'enregistrement par la police et par l'administration de tous les métiers libres qui ne sont pas encadrés à Paris par les communautés de métiers. Donc là, il s'agit de cibler une catégorie particulière de salariés, ceux qui sont inorganisés et dont on craint l'insubordination, justement parce qu'ils ne sont pas encadrés par des maîtres. Et donc, c'est la tutelle policière et l'encadrement et l'enregistrement policier qui va se substituer à l'encadrement des corporations qui, ici, n'existent pas. Et ces procédures d'enregistrement, eh bien, à Marseille, on les a vues se développer, ciblant, par exemple, tous ceux qui étaient considérés comme indésirables, comme, par exemple, les prostituées ou certaines activités de commerce, donc toutes les activités de revente. Cet enregistrement qui est mis en œuvre dans certaines villes, il vise aussi à assigner des places dans l'espace. Donc ça, c'est un document qu'on trouve chez un commissaire au Châtelet à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, on a à la fois l'enregistrement des petits métiers, mais, donc ça, c'est un commissaire d'un quartier de Paris qui enregistre les petits métiers de son quartier, mais qui, en plus, précise où ils exercent leurs fonctions. Parce qu'il ne s'agit pas qu'ils se déplacent partout dans l'espace. La police les enregistre et leur dit « Vous allez exercer ici ». Et donc là, vous avez à la fois le nom, la demeure, etc., d'un certain nombre de petits marchands, mais également la numérotation de leur emplacement à côté de telle adresse, etc., etc. Donc, voilà des ressorts qui deviennent traditionnels de la police et qui finissent même par nourrir la réflexion de véritables utopistes de la police. Vous avez deux images, trois images qui viennent d'un mémoire produit au milieu du XVIIIe siècle, hein, qu'on doit à un officier de la maréchaussée qui s'appelle Guillotet, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est un ami de Diderot, c'est un collaborateur de l'encyclopédie, hein, c'est donc un personnage qui veut un petit peu se faire une place dans la République des Lettres et qui va s'adjoindre les services d'un grand artiste, du dessinateur et graveur du XVIIIe siècle, Charles Saint-Germain de Saint-Aubin, donc qui va illustrer un texte qui est un projet de réforme de la police à l'échelle de tout le royaume de France, en s'appuyant aussi sur l'exemple parisien. Et ce système de police, eh bien, il est fondé sur à la fois un enregistrement total de la population et de ses activités par un certain nombre d'officiers de police, de syndics, d'immeubles, de quartiers, etc. Donc on retrouve ce quadrillage et ce découpage policier très fin qu'on a vu à l'œuvre à Marseille, par exemple. Et cet enregistrement de la population et de ses activités est fondé aussi sur une mise en transparence de l'espace qui s'appuie donc par un système de découpage et de quadrillage et de repérage, puisque là vous avez toutes les rues sont répertoriées, il y a des plans de ville qui sont constitués, tous les immeubles sont numérotés et à l'intérieur des immeubles, les escaliers, les cours, les appartements sont numérotés. Et toute cette information qui est constituée, hein, archivée, eh bien, elle est tenue par une administration centrale, donc où là vous avez un dispositif particulier qui est mis en place, donc des commis qui sont susceptibles de consulter ces fichiers, donc qui sont organisés à travers un système original de non pas informatique, mais de roues, donc qui permettent de compulser très facilement ces fiches qui sont classées par ordre alphabétique ou par ordre thématique pour retrouver l'information très rapidement. Alors, tout bien sûr, je termine, voilà, ici, tout n'est pas lié à la peste en tant que telle, mais l'épisode de la peste est sans doute, au moins à l'échelle municipale, un accélérateur d'un certain nombre de transformations, d'un certain nombre de dynamiques réformatrices qu'on va retrouver dans d'autres villes. C'est comme si vous voulez, la crise, la catastrophe permettait d'expérimenter un certain nombre de nouveaux dispositifs et ensuite, eh bien, le répertoire d'action, il est là, susceptible d'être reproduit, généralisé et appliqué en quelque sorte à d'autres cibles. Alors bien sûr, tout ça s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de la Régence. La Régence, c'est un moment extrêmement important au XVIIIe siècle, justement donc pour la réflexion et la constitution d'un certain nombre de dispositifs de contrôle qui visent non pas toute la population du royaume parce que la monarchie n'a pas les moyens de réaliser ce rêve administratif-là, mais au moins certaines populations, les soldats, les mendiants et les vagabonds, et puis, en 1720, les pestiférés. Merci.